CHT en trois mots.
Centre, histoire et travail, je sais que c'est la réponse que tu attendais, Michel. En trois mots, non, bah, je pourrais te dire archives, édition, éducation populaire. Archives, parce qu'en effet, on est un centre d'archives et on accueille aujourd'hui à peu près 170 fonds d'archives. Alors certains, c'est une ou deux boîtes, d'autres, c'est 300, 400, 500, c'est des volumes énormes. Je t'ai dit édition parce que depuis 88, on sort en moyenne un à deux livres par an. On en a une trentaine, tu vois, voilà, aujourd'hui. Des livres à la fois qui traitent d'histoire locale, ce sont parfois des témoignages de militants, ce sont aussi des livres à caractère scientifique, notamment sur les paysans. On a sorti un livre sur les labours issus d'un colloque, les travaux, bien sûr, universitaires de René Bourigaud sur le développement agricole, etc., etc. Et puis, le troisième mot-clé que je viens d'oublier, je t'ai parlé d'histoire, d'archives, éducation populaire, oui. Bah, tout simplement parce que on organise régulièrement des conférences, un cycle cinéma au cinématographe, mais aussi des expositions. Et ça nous permet donc de rentrer en contact avec une population qui n'aurait pas forcément franchi nos portes, pensant peut-être que le centre d'histoire du travail, c'est un truc de spécialiste pour les spécialistes. Non, on est ancré dans l'éducation populaire locale et on essaie de nouer des relations avec les acteurs divers, à la fois en radio alternante FM, bien sûr, la Maison des Hommes et des Techniques, là, l'Atelier Mécanique, qui se situe au centre-ville, et plein d'autres associations qui font la culture nantaise, enfin la culture sans paillettes nantaise.
Bonjour Christophe Patillon est non seulement un grand homme de radio, mais aussi un spécialiste en matière de classement d'archives, de tenue de bibliothèques et de réalisation de projets extérieurs. Ses compétences, il les met au service du Centre d'Histoire du Travail et ce depuis 1989. Interview réalisée à l'occasion des 30 ans du CHT.
La cohérence de tous ces fonds.
Ah. Parce que là encore, la cohérence ou la non-cohérence s'explique par l'histoire. On est donc en 1981 et tout au long des années 80 jusqu'à la moitié des années 90, les archives publiques ne s'intéressent pas aux archives privées, hormis bien sûr celles des personnalités, soit locales, soit nationales, etc. Voilà. Donc du coup, en tant que centre d'histoire du travail, très isolé dans notre secteur, on récolte tout et n'importe quoi. N'importe quoi, ça rien de péjoratif, c'est-à-dire ça vient de n'importe où. Par exemple, un militant de Mayenne nous a confié ses archives syndicales, il était enseignant à l'époque, tout simplement parce que localement, il n'y a aucune structure pour les accueillir. Autre exemple, le Parti Socialiste Unifié, nous sommes à la fin des années 80, un militant de Bouguenay monte à Paris, découvre ses archives en train de végéter dans l'eau parce qu'il y a une inondation, son organisation politique lui dit « Écoute, ce sont les archives de l'organisation, mais on ne sait qu'en faire. » Alors lui dit « Écoute, moi je connais un endroit, c'est Nantes, et il nous demande d'aller les chercher. » Voilà, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'à la fois, on peut avoir des fonds locaux qui sont cohérents avec notre objet, donc les archives de la CGT, de la CFDT, de Force Ouvrière, de la FDSEA, etc. On peut avoir, là encore, de la cohérence avec des militants locaux, et puis des trucs qui apparaissent comme ça et qui n'étaient pas a priori destinés à finir ici. Bon, le fonds PSU, mais également le centre de documentation anarchiste, par exemple, qui débarque à Nantes, je crois que c'est à la fin des années 90.
On parlait de ce fonds.
C'est un fonds gigantesque, là encore c'est le hasard. On nous a contactés en disant, voilà, on a une énorme bibliothèque de 3500 ouvrages, des dizaines et des dizaines et des dizaines de périodiques français et internationaux issus du courant anarchiste, au sens large, est-ce que vous êtes d'accord pour les accueillir et les gérer parce que nous, on est dans la capacité de le faire. Donc ce centre de documentation anarchiste, en fait, il est relié à la Fédération anarchiste et il occupait un local très exigu et non accessible au public au cœur de Paris. Et donc on a récupéré ce fonds et c'est vrai qu'il est extrêmement important dans le sens où René Bourigaud, donc, qui était salarié du Centre d'Histoire du Travail, qui était professeur à la fac de droit, m'a un jour dit que retrouver les œuvres de Proudhon à Nantes, c'est extrêmement compliqué, il y en a peu. Ici, au Centre d'Histoire du Travail, Le penseur byzantin dispose de 4-5 boîtes et il y a au moins 30 à 40, il y a en fait ses œuvres complètes. Voilà. Donc c'est un fonds extrêmement riche qui touche bien sûr à l'histoire des idées politiques, anarchisme mais aussi parfois marxisme, etc. Beaucoup de littérature prolétarienne, beaucoup de petites brochures qui pourraient sembler très exotiques. Qu'est-ce qu'être végétalien, par exemple, une petite brochure du début du XXe siècle, par exemple. Plein de choses sur les courants individualistes, etc. Et puis un fonds périodique extrêmement important, où on peut retrouver une quantité imposante de publications locales d'extrême gauche ou libertaire de ces tumultueuses années 70.
Les œuvres d'Élisée Reclus.
Les œuvres d'Élisée, oui, bien sûr. On a L'homme et la terre, ou la terre, je crois, l'histoire d'un ruisseau, etc. Alors, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, qui n'ont pas ta culture, cher Michel, Élisée Reclus, c'est l'un des plus grands géographes français. Il était avec, c'était le pendant de Vidal de la Blache. Élisée Reclus, lui, s'intéressait à la géographie humaine. Il a écrit des œuvres assez magistrales, qui font encore autorité sur plein d'aspects, sur son approche de la géographie. C'était aussi un militant anarchiste, proche de Bakounine, un communard, etc. Et donc, en effet, nous disposons, au Centre d'Histoire du Travail, de ces trésors. Et je ne sais même pas si la bibliothèque de section de géographie à la faculté de Nantes dispose de cette collection de la Terre.
Quand tu dis que tout ça est arrivé par hasard, je te crois pas.
Si, c'est arrivé par hasard. C'est-à-dire qu'on a tous nos vies, cher Michel, et il m'est arrivé de croiser certaines personnes qui savaient que je bossais au Centre d'Histoire du Travail et qui me jugeaient certainement suffisamment compétent pour accueillir et gérer ce type d'archives. Moi, c'est vrai que je suis pas spécialisé dans les archives politiques, mais c'est vrai que tout ce qui concerne le mouvement libertaire, l'extrême gauche, etc., j'ai une certaine culture politique qui m'amène à découvrir ces fonds de façon moins béate, je dirais, qu'un certain nombre d'archivistes qui n'ont pas cette culture-là.
Nous avons sauvé cette entreprise. Nous avons renoncé au paiement de nos heures supplémentaires. Nous avons abandonné notre 13e mois. Nous avons renoncé à la prime de Noël. Et maintenant, on nous fout dehors. On nous liquide.
C'est plutôt des réseaux qui fonctionnent.
Oui. C'est-à-dire que les paysans, par exemple, bon, c'est simple. René Bourrego, qui était avec lequel j'ai travaillé, moi, au Centre d'Histoire du Travail, au tout début des années 90 et à la fin des années 80, René a été permanent, je crois que c'était à la Chambre d'Agriculture. Là, je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'était ça. Donc René, il avait bien sûr un ancrage paysan, il connaissait plein de monde, et tout naturellement, quand le Centre d'Histoire du Travail s'est créé, c'était pas absurde de retrouver des archives paysannes. D'autant plus que le département a eu des leaders paysans à tempérament de gauche, voire même d'extrême gauche. Donc, de fait, ce cousinage ou ce voisinage avec les archives ouvrières tombait sous le sens. Par exemple, la Confédération paysanne actuelle, on est en lien avec elle depuis plusieurs années, et il y a 2 ans, ils nous ont dit « Est-ce que vous seriez intéressé pour recevoir nos archives ?» Donc, les archives nationales de la Confédération paysanne ont des chances de finir à Nantes, parce que pour eux, c'est cohérent, puisque Nantes fut un bastion de cette gauche syndicale, paysanne, etc. Donc, de fait, le Centre d'Histoire du Travail est devenu une référence incontournable pour tout chercheur désireux de faire un travail sur la gauche paysanne. Voilà. Donc, c'est en effet ça, le réseau. Et ensuite, c'est le bouche à oreille qui fonctionne, notamment dans les syndicats, où, en effet, une section syndicale, un militant de cette section, sait que son union départementale a confié les archives ici, ou parce qu'il nous a croisés lors d'une table de presse, lors d'une fête populaire, il nous dit, moi, j'ai 2-3 cartons, j'étais dans une petite boîte, il y a les comptes rendus de délégués du personnel, il y a les quelques tracts qu'on a pu sortir, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Et donc là, on dit, oui. Et donc, on récupère ce fonds, on le classe et on le met à disposition des éventuels chercheurs.
Quand Yannick Guin, qui est à l'origine de la création du CHT, parle de l'équipe, salarié ou bénévole, il parle en termes de salarié ou de bénévole militant. Ça veut dire quoi?
Je pense que Yannick Guin a raison. Je pense qu'on vient pas au Centre d'Histoire du Travail par hasard. C'est parce que l'objet, l'histoire du mouvement ouvrier, le mouvement paysan, ça nous intéresse. Parce que peut-être on a une âme militante. Et puis, parce que depuis que j'y suis, on considère pas notre travail comme un salariat comme un autre. Pour ma part, parce que je veux revenir à moi, je veux pas parler à la place de mes collègues. Moi, je le dis clairement, ça fait 20 ans que je milite. Ça fait pas 20 ans que je travaille, ça fait 20 ans que je milite. C'est pas une torture de me lever le matin pour aller bosser. Quand les gens passent la porte en disant, on a un projet, on a envie de faire ci, etc. Moi, je dis souvent banco. Bon, ça, moi, ça correspond peut-être à mon caractère, voilà. Mais je pense que ça, c'est important. C'est vrai qu'on a envie de défendre cette histoire ouvrière qui a été malmenée, oubliée, etc. Donc, on le fait avec de l'énergie, avec de l'envie. Bien au-delà, on dépasse largement notre mission de simple salarié. Car honnêtement, Michel, on pourrait largement faire moins. Et dire, non, notre mission s'arrête à classer des archives, faire un petit projet de temps en temps, et ça suffit à notre bonheur. On a une tendance un peu boulimique, on fonctionne peut-être même au-dessus de nos forces et de nos moyens, mais on a conscience aussi de travailler dans un cadre exceptionnel, et puis surtout, je dirais, non hiérarchique. On a une qualité de travail, de relation, à la fois entre salariés, et puis entre les salariés, et puis la direction associative, qui fait que c'est de la bonne ambiance permanente, il n'y a pas de querelle d'ego, etc. Et ça facilite énormément le travail dans une association, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que le Centre d'Histoire du Travail est un peu comme le village d'Astérix, défend la mémoire ouvrière, placé dans les bâtiments des anciens chantiers navals, dans un lieu où on essaye finalement de gommer cette culture ouvrière?
Hein? Alors, ça c'est déjà un point de vue très engagé. Tu parles de gommer, certains diraient la réactualiser peut-être. Ah, c'est un débat difficile. C'est vrai que l'arrivée de l'éléphant et de son moteur diesel, l'arrivée de la barge, le hangar à bananes, etc., ça a profondément modifié cet espace. Alors après, on pourrait, en effet, on a une vision optimiste, en disant que la mairie de Nantes, qui subventionne très largement le Centre d'Histoire du Travail, réaffirme son intérêt à notre objet en nous aidant à rester dans ce lieu, en nous offrant, entre guillemets, une très belle nouvelle salle d'archives. Donc ça veut dire qu'il considère que notre place est ici, dans ce bâtiment qui incarne l'épopée industrielle nantaise. Ça, c'est la version optimiste. La version pessimiste que défendront certains, avec peut-être des arguments, c'est de dire qu'on sert d'alibi à une politique culturelle qui est beaucoup plus dans le clinquant, le spectaculaire et le grand public avec Royal de Luxe, etc. La vérité est peut-être entre les deux, parce qu'à la mairie, je pense qu'il y a certainement des gens qui doivent nous considérer comme une survivance du passé, et d'autres qui considèrent qu'on incarne une facette de Nantes et que cette incarnation, elle est importante pour la ville. Et par exemple, pour en revenir à nos archives, il se passe pas, je pense, un numéro de la revue Place Publique, qui est une revue maintenant qui s'est installée dans le paysage nantais, qui ne fasse appel à notre fonds photographique. Bien souvent, Nantes Passion, par exemple, fait appel aussi à nos ressources diverses et variées. On a écrit des histoires de quartiers qui ont formidablement marché, notamment à Chantenay, etc. Donc on a aidé aussi la ville de Nantes à faire en sorte que l'histoire locale ait pignon sur rue et que les gens se réapproprient leur quartier d'origine ou leur quartier d'existence. Donc je pense qu'en effet, la vérité est entre les deux. Voilà. Elle dépend aussi des intervenants et de la culture dont sont porteurs les élus ou les administratifs des municipalités qui nous sont...
T'as raison, mec, tu peux fermer. Moi aussi, je vais fermer. D'ailleurs, tout le monde va fermer la recette. On va fermer la recette. On ferme. On ferme. Mais moi, je sais pas la fermer.
Non. On reçoit régulièrement des militants ouvriers, des gens qui sont dans la culture, qui viennent de différents pays. Alors, soit ils viennent par Peuple et Culture, par exemple, souvent. Ils nous amenaient une ou deux personnes comme ça et on avait le temps. Soit il y a une personne de la municipalité qui leur fait faire le tour un peu de ce quartier, donc, et qui insiste pour que ces gens passent à la fois à la Maison des Hommes et des Techniques, autour de l'histoire de la navale, au Centre d'Histoire du Travail, parce que bien souvent, ce sont des personnes qui, dans leur pays, vivent dans des villes qui ont connu un destin industriel similaire à Nantes, c'est-à-dire qu'une industrie forte qui est en déclin et qu'ils cherchent le moyen, à partir des friches industrielles existante, de faire survivre cette mémoire. Voilà. Donc on est, pour certains membres de la municipalité, on est assez exemplaire. Et c'est vrai que, là encore, pour poursuivre la réflexion, régulièrement, je me souviens de Brestois, de gens qui venaient de Limoges, de Poitevin, de Toulousains, etc. Il y a plein de gens qui disent « Mais c'est incroyable à Nantes, la richesse autour de l'histoire ouvrière, le CHT, la MHT. Nous, on vient de villes qui ont une culture ouvrière, qui ont un passé industriel, voire même une actualité industrielle, et il n'y a pas cet effort de fait de valoriser cette histoire-là. Et ils essayent, avec leurs moyens, de relancer la mécanique, de voir si au niveau des municipalités, de leur conseil général, il y a la volonté d'ouvrir des sortes de centres d'histoire du travail un peu partout en France. La tâche est rude, Mais bon, certains ont la foi du charbonnier et moi je souhaite que émergent des structures similaires ou tout le moins des structures qui aident à valoriser cette histoire.
Roubaix fait de l'ombre.
Non, Roubaix fait pas du tout de l'ombre. Roubaix, c'est une structure extraordinaire. D'abord, l'édifice est magnifique, c'est deux filatures reliées. Ils ont des moyens colossaux en termes de classement d'archives. À ma connaissance, ils avaient beaucoup moins de moyens, par contre, en termes humains, pour faire fonctionner la boutique. Et là, ça pose l'éternel problème des investissements dans des grandes structures comme cela. Elle fait pas du tout d'ombre. Malheureusement, il faudrait 4-5 Roubaix partout en France pour accueillir cette mémoire ouvrière, cette mémoire aussi patronale et industriel, parce que Roubaix, c'est pas que de la mémoire syndicale, loin de là, c'est surtout des archives d'entreprise. C'était le projet initial de Jack Lang. Il a lancé Roubaix, ça coûtait très cher, et après il a abandonné l'idée d'en parsemer le territoire français. Moi je pense, à titre vraiment, vraiment personnel, je pense que des structures type CHT, grosses bibliothèques, centres d'archives, etc., ce sera extrêmement difficile d'en créer de nouveaux, parce que, entre guillemets, nous coûtons cher. En termes d'espace, notamment. On immobilise de l'immobilier. Par contre, faire naître ailleurs, sur le territoire français, des structures qui serviraient de pont entre des archives publiques qui ont décidé de s'intéresser à ce type d'archives privées, moi je pense que là, il y a un chemin à prendre. On rassemble des militants, des universitaires locaux, qui convainquent les syndicalistes de confier leurs archives. La structure les classe, puis après les donne en gestion aux archives départementales. Ça me semble être un schéma beaucoup plus porteur.
Comme disait Brecht, ceux qui ne participent pas à la bataille participent à la défaite. Dallas a aussi rencontré un groupe de femmes militantes dans une librairie. Et Stéphane Lemolton, un documentariste qui se charge de lancer une pétition auprès des cinéastes et des artistes. Tous ont loué sa détermination, son courage. Tous ont promis d'aider les trois de Rossel, Thomas, Ashmi et Rudy. Tiendront-ils ce qu'ils ont dit ? En tout cas, tous l'ont écouté. Ils ont dit et répété votre combat.
Christophe Patillon est l'invité du magazine réalisé à l'occasion des 30 ans du CHT. C'est important de fêter ses 30 ans.
Surtout qu'on en a 46 pour moi, oui. C'est important, oui, parce que notre côté un peu militant engagé, on est très humain. Ça nous donne l'occasion de rassembler, pour une fois, plein de copains, des militants ouvriers qui sont en retraite, etc., qui ont été d'anciens leaders ou d'anciens... Voilà, de les voir, et puis de les voir tous ensemble. D'ordinaire, ils passent la porte, ils nous amènent une bouteille, on discute le bout de gras. Là, on sera 50, 60, 70, à partager un repas. On sait qu'il y aura un petit groupe de vieux qui va s'installer et qui va se parler de 55 ou de je ne sais quoi. Donc, c'est toujours des moments hyper chaleureux. C'est important, voilà, il faut marquer le coup, parce que je pense pas que Yannick Guin, quand il s'est lancé dans ce projet avec d'autres, il espérait que cette structure vive 30 ans et surtout s'affirme en 30 ans comme une institution nantaise mais aussi nationale, puisque nous sommes reliés maintenant à un collectif de centres de documentation français où on a toute notre place et on est apprécié à juste titre par quantité de chercheurs nationaux.
Merci à Christophe Patillon pour sa libre participation à cette émission réalisée à l'occasion des 30 ans du CHT. Les illustrations sonores ont été enregistrées lors d'une représentation salle Paul Fort à Nantes de Vivant, pièce adaptée et mise en scène par Guy Blanchard, compagnie de L'Oiseau Naïf, d'après Les Vivants et les Morts de Gérard Mortillat.
Pistolet en sautoir, sans pain, sans train. Marie Bouchard.